franceinter.fr.
Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. L'incroyable exploit de François Gabart, le navigateur de 34 ans qui a déjà à peu près tout gagné, a mis pied à terre à Brest ce matin sous les acclamations de la foule, après avoir amélioré de plus de 6 jours le record du Tour du Monde en solitaire. Toute une commune en deuil et dans le recueillement, 3 jours après la tragédie du passage à niveau de Mias. La commune de Saint-Filieu-d'Aval pleure ses enfants morts. Un rassemblement silencieux leur était dédié ce matin. En attendant ce soir, une veillée de prière. Dans ce journal également, les projets du gouvernement sur l'asile et l'immigration. La ministre déléguée à l'intérieur, Jacqueline Gourault, dément sur France Inter un durcissement de l'exécutif sur ce sujet. L'Europe qui fait silence total sur l'entrée de l'extrême droite au gouvernement autrichien à des postes régaliens. Et puis en sport, des Bleus revanchards en finale du mondial de hand. Les Françaises en quête d'un deuxième titre face aux favorites norvégiennes. Juste après ce journal, évidemment, le grand face-à-face de France Inter avec vous, Ali Badou au programme.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann sur les grandes questions de la semaine. Et puis français, qu'avons-nous en commun? C'est la question dont on va débattre avec le philosophe français le plus lu, le plus traduit et le plus commenté dans le monde, Alain Badiou.
Merci Ali, à tout à l'heure. Il était 11h ce matin sur les quais de Brest quand François Gabart a mis pied à terre après 42 jours et 16 heures en mer, le record du monde du Tour du Monde à la voile en solitaire. Le précédent record établi il y a tout juste un an par Thomas Coville et qu'on jugeait déjà incroyable est amélioré d'un peu plus de 6 jours. Il a fallu évidemment beaucoup de chance mais aussi les exceptionnelles capacités conjuguées d'un navigateur et de son bateau. Fabrice Rigobert, vous êtes à Brest où l'accueil de François Gabart a été à la hauteur de son exploit.
Les coups de corne de brume et les gerbes d'eau du remorqueur de haute mer à Baie-Bourbon, l'hommage des plaisanciers dans une lente procession et plusieurs milliers de personnes venues saluer l'exploit du haut de la digue du port du Château, comme Philippe accompagné de son fils Maël.
L'année dernière, on était là déjà pour Thomas. On pensait le record difficilement battable. Et là, descendre sous 43 jours, c'est phénoménal, quoi.
C'est vraiment exceptionnel. Non, et là, regardez, c'est vraiment super événement.
À l'image de Thomas Coville, un an plus tôt, François Gabart a communié avec le public, assailli de questions une fois son trimaran géant amarré. Il s'est ensuite offert un bain de foule présidentiel avant de monter sur le podium.
Bravo François !
Et c'est les yeux rougis par l'émotion que le marin à la petite barbe blonde, à qui l'on a trop souvent reproché son côté lisse, s'est enfin laissé aller.
Moi, je suis bien, non, merci. Évidemment, je suis fatigué à un point affolant. Mais là, ce que le spectacle que vous me faites, c'est juste magnifique.
François 1er, Mozart de la mer, extraterrestre, les expressions fusent pour qualifier François Gabart. Et il y a de quoi pour Céline.
Il a fait une course de folie. D'avoir pulvérisé un record comme ça, c'est un truc de malade. Franchement, seul, il y a le côté technique, mais il y a le côté psychologique aussi à gérer. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Bravo à lui.
François Gabart s'inscrit dans la légende. Il écrit sa propre légende, celle du marin qui gagne tout dans toutes les conditions et a seulement 34 ans. Brest, Fabrice Rigobert, France Inter.
Ah oui, une formidable performance dont l'intéressé lui-même est le premier surpris. Réussir quelque chose, oui. Mais à ce point, François 1er Gabart, dans ses toutes premières déclarations à son arrivée à Brest.
Ouais, bah, comme Thomas l'an dernier, c'est. Je sais pas si les records, enfin l'histoire des records depuis le début, et en général, on est impressionné à chaque fois. Je m'attendais pas à ça. Je suis hyper honnête. J'espérais, j'avais un petit espoir de le battre sur corps, mais il était faible. Mais de le battre autant, jamais j'aurais imaginé. Ça doit faire 2, 3, 4 ans, 4 ans qu'on a lancé ce projet. Et voilà, on a, avec toute l'équipe, on a fait un super bateau. On a fait un super tour du monde et je suis fier de ce voyage.
François Gabart qui a été salué par Thomas Coville. Aucune rancune chez les marins. Celui qui a été dépossédé de son record salue un exploit magistral et pur, comme le président de la République sur Twitter qui adresse ses félicitations au skipper en soulignant son exceptionnelle performance.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Journée de deuil et de recueillement à Saint-Filieu-d'Aval dans les Pyrénées-Orientales. Toute la commune rend hommage ce dimanche aux enfants morts dans l'accident du passage à niveau de Mias, en soutien aux familles et en pensant très fort à ceux qui luttent encore pour la vie. 5 collégiens ont été tués dans la collision entre leur car scolaire et un TER, 15 autres blessés, dont 6 très grièvement. En attendant la veillée de prière ce soir, une messe leur a été dédiée ce matin en l'église de Saint-Filieu, suivie d'un rassemblement silencieux. Jérôme Jadot.
À l'abri des micros et caméras gardées à distance par les gendarmes, plusieurs centaines de personnes se sont donc regroupées en arc de cercle dans les jardins de l'hôtel de ville, sous les pins maritimes battus par le vent. Tout le monde n'a pas pu entendre les quelques mots prononcés par le maire. Il a égrené les prénoms des 5 enfants décédés avant de présenter ses condoléances à leurs proches. Il y avait là beaucoup de familles, des enfants, de jeunes adolescents, parfois les yeux rougis. Angelina est élève de 3e au collège de Mias. Elle connaît plusieurs victimes de l'accident.
Ophélia, Loïc, Alan et il y a des copines à moi qui sont à l'hôpital.
Qu'est-ce que tu as voulu leur dire en venant ici?
Que je les soutiens et que je sais que c'est dur.
Soutien, hommage avec un moment de recueillement avant quelques applaudissements. Des habitants d'autres villages sont également venus en solidarité. Romain Gros est député de la circonscription.
C'est un message crucial pour les familles qui sont dans le deuil, dans le désespoir, de leur dire que notre fraternité à tous les accompagne. Ça ne sont que parfois des mots ou des gestes. C'est vrai que ça peut paraître futile à l'égard du deuil, de la catastrophe et du drame qu'ils traversent, mais c'est toujours notre devoir à faire et puis c'est toujours mieux à exprimer.
Des expressions qui vont se poursuivre ici avec une nouvelle veillée de prière ce soir dans l'église du village, avant les premières obsèques qui seront célébrées dès demain. Saint-Félix-Lieu-d'Availle, Jean-Marie Porcher, Jérôme Jadot, France Inter.
À Lille, des voitures incendiées hier soir à proximité de l'accident de train de la veille. Vendredi soir, 4 jeunes gens avaient escaladé les grilles pour prendre un raccourci en traversant les voies. Ils ont été percutés par un TER. L'un d'entre eux est mort hier, un autre est dans un état critique. Hier soir, une vingtaine de jeunes ont donc manifesté en réaction en commettant de nombreuses dégradations. L'un d'entre eux a été interpellé. Et puis à Toulouse, 2 hommes sont morts en tentant d'échapper à un contrôle routier cette nuit. Leur véhicule s'est encastré dans les barrières de sécurité. Le procureur indique qu'aucune poursuite n'était en cours au moment de l'accident, que seul un dispositif d'interception était encore en place. C'est un débat qui monte sur l'asile et l'immigration que prépare exactement le gouvernement. Emmanuel Macron aurait choisi la ligne dure, titrait hier Le Monde. Le journal du dimanche confirme que l'exécutif voudrait durcir le droit d'asile et augmenter les expulsions. Ce qui reste à confirmer car rien n'est encore tranché. Le Premier ministre Édouard Philippe, dont la majorité pourrait se diviser sur le sujet, doit engager des consultations le mois prochain en compagnie de Gérard Collomb, dont la ministre déléguée Jacqueline Gourault était ce matin l'invitée de France Inter et pour elle, on ne peut pas parler de durcissement.
Je ne crois pas qu'il y ait un durcissement de l'exécutif. Il y a à la fois la volonté d'accueillir les migrants, de respecter notre tradition de droit d'asile et en même temps, il faut réguler l'arrivée des migrants. Parce qu'il y a des gens qui sont des demandeurs d'asile, qui viennent de pays en guerre. Et puis, il y a des migrants parce que la France est attirante, parce que ils veulent passer par la France pour aller en Angleterre. Et il faut donc à la fois accueillir et à la fois réguler.
L'exécutif veut durcir le droit d'asile, pas les migrants en général.
Alors, l'exécutif veut réduire le temps d'expertise, c'est-à-dire le temps au cours duquel on regarde si le migrant a le droit ou n'a pas le droit d'asile. C'est ça qui est l'essentiel de la base. C'est pas un durcissement, c'est un raccourcissement du temps d'expertise.
La ministre Jacqueline Gourault avec Éric Delvaux ce matin sur France Inter. De son côté, le patron de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Pascal Brice, reconnaît des difficultés sérieuses sur l'accueil et l'hébergement des migrants demandeurs d'asile. Or, dit-il, sur l'asile, la France doit être irréprochable. Ce que demande aussi à sa façon Jean-Luc Mélenchon, pour qui la solution est d'abord européenne et passe par l'aide au développement.
Quand j'ai expliqué pendant toute la campagne présidentielle que le vrai problème, c'était que les gens devaient pouvoir rester chez eux, on a qualifié ça d'angélique. Maintenant, quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer qui soit raisonnable, à part rejeter les gens à la mer, tout ça n'est pas sérieux. Un grand ensemble qui représente le quart de la production mondiale, l'Union européenne, qui comporte 450 millions de personnes et qui est un territoire immensément étendu, n'est pas capable de trouver la solution à l'arrivée de 100 000 personnes par an. Voilà, c'est ça son problème.
Mais c'est quoi,
ça n'est pas sérieux.
Elle a trouvé la solution.
Ben non, la preuve, c'est qu'elle s'est mise dans de beaux draps.
Dans un premier temps.
C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on décide tous ensemble ce que l'on va faire et comment on fait pour prendre en charge des vagues qui arrivent contre lesquelles vous ne pouvez rien. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. C'est pas interdit de penser au problème en pensant avec humanité à une manière d'organiser les choses.
Jean-Luc Mélenchon, ce matin sur CNews, dans une tribune publiée par Le Monde, plusieurs maires de grandes villes, dont Alain Juppé et Martine Aubry, dénoncent le manque de moyens dont ils disposent pour faire face à l'afflux des migrants. Et ils demandent à l'État d'en faire plus. Un silence assourdissant en Europe, justement. Après l'annonce à Vienne d'un retour de l'extrême droite au gouvernement, on aura noté l'absence de toute réaction des différents gouvernements de l'Union et des autorités européennes. Trois ministres du FPO, à l'intérieur, à la défense et aux affaires étrangères, c'est du jamais vu depuis la dernière guerre sur le vieux continent. Et on se souvient que l'Europe avait fermement réagi, il y a 18 ans, pour beaucoup moins que ça, Laxmi Lota.
Les seules réactions européennes pour l'instant sont celles des leaders d'extrême droite. Ils étaient réunis hier à Prague et ont salué un événement historique. Les dirigeants des instances européennes n'ont pour l'heure pas commenté cet accord avec l'extrême droite en Autriche. Le Parti socialiste français réclame pourtant une réaction forte de la part de l'Union européenne. Dans un communiqué, il condamne la formation de ce gouvernement et rappelle que l'Autriche va prendre la présidence du Conseil européen à partir de juillet prochain. En 2000, les États membres avait pris des sanctions lorsque le FPO était arrivé au pouvoir. L'Autriche avait été isolée diplomatiquement pendant quelques mois. Des mesures qui semblent improbables aujourd'hui dans un contexte de montée des partis d'extrême droite en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Le nouveau gouvernement autrichien a toutefois confirmé hier son engagement européen. Un possible référendum sur une sortie de l'Union a également été écarté. Bruxelles, Laxmi Lota, France Inter.
Quand rester couché devient un vrai travail, c'est un voyage immobile que viennent de réaliser 20 volontaires âgés de 25 à 45 ans, cobayes de la clinique spatiale à Toulouse depuis 60 jours. 60 jours à rester allongé, incliné à 6 degrés, la tête un peu plus bas que les pieds, pour simuler les effets de l'apesanteur et mieux préparer les prochains séjours dans l'espace. Corinne Cutillat.
Chute de la pression artérielle, hypertension orthostatique, atrophie des muscles, perte de densité osseuse, les désagréments de l'apesanteur sont multiples. Cette nouvelle étude, baptisée Cocktail, a donc pour objectif de prévenir tous ces effets négatifs. Ce cocktail est un complément alimentaire. Le directeur de recherche clinique au MEDES, Arnaud Beck.
Il y a 20 sujets qui participent à cette étude. Il y en a 10 qui, pendant les 60 jours, ont pris tous les jours, 3 fois par jour, ce complément alimentaire, nutritionnel. Les 10 autres n'ont rien pris. Et en fait, on va pouvoir comparer les résultats obtenus dans un groupe par rapport à ceux de l'autre groupe. Et évidemment, on espère voir des résultats meilleurs dans le groupe qui aura pris ce fameux cocktail.
L'expérience touche maintenant à sa fin. Les volontaires sont désormais debout, mais c'est une véritable épreuve après 60 jours couchés, explique Sébastien.
La première fois que je me suis remis debout, ça a été assez difficile parce qu'en fait, on nous demande de marcher jusqu'au fauteuil roulant. Et là, je me suis dit... ça va être compliqué. Je voyais assez flou. Et surtout, les mollets, en fait. Les mollets sont vraiment très, très faibles.
La prochaine étude de simulation de l'apesanteur sera une immersion sèche. Les volontaires seront dans de grandes baignoires, protégées par une bâche, entre deux eaux, durant 5 jours. Toulouse, Corinne Cutillat, France Inter.
En sport, c'est sa première victoire en Coupe du Monde de biathlon. La Française Justine Bréza a remporté il y a quelques instants la mass start du Grand Bornand. Une seule faute au tir, 11 secondes d'avance sur une Bélarusse et surtout 19 secondes sur la numéro 1 mondiale, l'Allemande Laura Dallmayr. Et puis on espère une bonne nouvelle également. Ce dimanche, du côté de Hambourg, en Allemagne, en finale du mondial féminin de hand, France-Norvège, une affiche presque habituelle à ce niveau et qui généralement tourne à l'avant des Norvégiennes, championnes du monde en titre. Une fois seulement, les Bleues avaient fait mentir le pronostic. Elles avaient remporté leur seul titre mondial en 2003 et elles en sont d'autant plus motivées, Xavier Monferrand. Une nouvelle médaille d'argent serait une grande déception pour les Bleues.
Oui, Guten Tag, Yves. Effectivement, ce serait une déception parce que, eh bien, l'argent, elles en ont l'habitude, elles connaissent le goût de l'argent. Encore l'an dernier à Rio, en finale des Jeux Olympiques. Alors, celle-là était particulière parce que c'était la première médaille olympique des Françaises. Mais l'argent mondial, elles le connaissent. Il y a eu 99 et puis il y a surtout eu 2009 et 2011. Et cette génération-là, les anciennes, sont encore là. Donc, elles le connaissent. Et cette fois, eh bien, tout de suite après la demi-finale, elles nous disaient l'argent ne nous suffit pas, ne nous suffit plus. On veut aller chercher cette médaille d'or face aux effrayantes Norvégiennes, vous l'avez dit, championnes du monde en titre. C'est ce qui se fait de mieux dans le handball mondial féminin. Et puis surtout, en termes d'ambiance, on est à Hambourg, oui, pour la finale, mais ça va être carrément Oslo. Hein. Ça va être la Norvège, plus de 5000 Norvégiens dans les tribunes, une salle d'Hambourg qui va être pleine, 12 000 personnes acquises à la cause des Norvégiennes. Bref, un gros défi pour les Françaises, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Xavier Monferrand, au taquet, à Hambourg. France-Norvège, c'était aussi la finale du Mondial des Hommes, il y a près d'un an, finale remportée par les Bleus. Les deux titres la même année, ce serait évidemment exceptionnel. Seule l'Union soviétique l'avait réussi, c'était en 1982. Allez, ça fait toujours de l'audience. Pour terminer, l'élection de Miss France, près de 7,5 millions de téléspectateurs, le meilleur score de la soirée hier soir sur TF1. L'élection et le couronnement de Miss Nord-Pas-de-Calais, Maëva Cook, 1m76, étudiante en première année de droit et très heureuse d'être contente. La soirée était dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis forte et confiante, je suis belle et je suis moi, disait un message vidéo qui a été diffusé juste avant le défilé des Miss en maillot de bain.